Nzamba.
Nzambira samirana.
Nous sommes samedi 10 juillet 2021. Vous suivez le journal de la radio Inzamba Agathe Kakawe, dont voici les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale jure que la justice n'aura jamais d'indépendance. Jelaz Ndamirabe l'a dit au cours de sa tournée à Makamba. 4 ans, c'est le temps que d'anciens élèves du centre de formation professionnelle de Mouravia qui ont terminé leurs études viennent de passer à attendre leur certificat. Ils réclament donc leur sésame. Et puis, 10 juillet 2015, 10 juillet 2021, cela fait exactement 6 ans que la radio Inzamba a commencé à émettre. Un jour spécial pour la radio et ses auditeurs. Voilà pour les titres. Au micro, vous êtes avec Josephine Johnson-Nzimana. Bonjour à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Jamais la magistrature ne sera indépendante au Burundi. C'est ce qu'a déclaré Jelaz Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale, lors de sa descente dans la province de Makamba. Pour lui, le pouvoir doit garder la prérogative de se mêler des décisions de la justice. Il menace même de remplacer tout magistrat qui prône l'indépendance de la justice. Pour Vital Chimilimana, ancien représentant du syndicat des magistrats, Simabou, c'est une honte de voir une telle autorité qui met dans les tiroirs les conclusions des états généraux judiciaires de 2013. Ces conclusions s'inscrivaient dans l'indépendance de la magistrature. Beni Akselakana nous fait le point.
Jelaz Daniel Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale du Burundi, s'en prend à l'appareil judiciaire burundais. Pour lui, si les magistrats votent leur chef hiérarchique au sommet sur le plan national, le président de la République n'aura pas la parole. La démocratie ne sera jamais observée dans la magistrature burundaise. Jelaz Ndabirabe.
Les magistrats répètent toujours qu'ils veulent aider leur chef hiérarchique au niveau national, comme quoi il y a la démocratie dans son secteur. Ils veulent le vote d'un homme, une voix. Ils disent que c'est organisé ainsi dans d'autres pays. Or, c'est faux. Aux États-Unis, un président donne son orientation et la justice applique à la lettre. Si le président décide de renvoyer un magistrat, c'est vite fait.
Tout magistrat qui prône pour la démocratie dans le secteur judiciaire se verra remplacé par les notables collinaires et ils en sont capables.
Et si on chasse ces magistrats pour les remplacer avec les notables collinaires, qu'est-ce qui va changer? Car à vous, magistrats, ces notables peuvent accomplir une bonne fonction.
Pour Vital Chimilimana, ancien représentant du syndicat des magistrats Simabou, c'est une honte de voir une telle autorité qui met dans les tiroirs les assises des états généraux judiciaires de 2013.
La nomination des magistrats, notamment les responsables de ce corps par les pairs, est un des principes qui a été débattu et convenu lors des assises des états généraux de la justice en 2013. Mais depuis lors, nous avons vu le régime du CNDD-FDD qui a mis dans les tiroirs le rapport de ces états généraux de la justice parce que ce régime ne voulait pas qu'il y ait des réformes.
Jelaz Daniel Ndabirabe, président de la Chambre basse, a prononcé ses propos dans la commune Mabanda cette semaine en tournée en province Makamba.
Le conducteur d'un véhicule à trois roues appelé Bajaj a été arrêté vendredi dans la nuit après avoir été tabassé par des policiers. Cela s'est passé dans le quartier Mutakura, zone Chibitoke, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. L'homme a été arrêté à la suite d'une mésentente entre les policiers qu'il avait interpellé avec un autre conducteur. Les témoins des faits s'insurgent contre la brutalité des policiers dont l'un a même tiré avec son arme. C'est un reportage de Vanessa Uiteka.
Le désordre suivi par des tirs a commencé par l'arrestation de deux conducteurs de tricycles communément appelés Bajaj. C'est sur une barrière située sur la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, dans la localité de la zone Chibitoke. Des sources sur place indiquent que des policiers avaient barricadé la route. Mais après avoir arrêté les deux conducteurs de Bajaj, les policiers ne se sont pas entendus sur leur sort. C'est ainsi que, lorsque le groupe est arrivé à la position de la police, un des policiers a enlevé les minottes au conducteur, les autorisant à s'en aller. Mais un autre policier a alors tiré des coups de feu en l'air au moment où les conducteurs de Bajaj se dirigeaient vers le lieu où leurs engins avaient été garés. Un des conducteurs a à nouveau été arrêté et battu avant d'être conduit au cachot de la police en zone Tibitoke de la commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Il est accusé de tentative d'évasion avec son Bajaj. Les conducteurs de Bajaj et les témoins qui étaient sur les lieux, dont des habitants locaux, dénoncent la brutalité des agents de la police et fustigent leurs attitudes à l'endroit de gens qui cherchent de quoi faire vivre leur famille. Ces conducteurs de Bajaj demandent que le chauffeur arrêté soit libéré car il estime qu'il est victime d'une injustice. La rédaction de la radio Inzamba a tenté de joindre Pierre Mouliquié, porte-parole de la police burundaise, pour plus d'éclaircissements sur cette affaire sans succès.
Grogne des élèves ayant terminé leurs études au centre de formation professionnelle de Muramvya. Cela fait en effet 4 ans que cette école privée ne délivre pas de certificat aux lauréats de la 4e année. Les arguments fournis par les autorités de cet établissement pour expliquer ce retard ne sont pas convaincants selon ces mêmes lauréats. Ils réclament d'être rétablis dans leurs droits. Les détails avec Delicia Kamikadzi.
Cette école est un des lauréats de 4 promotions de la section technologique de l'information et de la communication. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas accès à leur diplôme alors qu'ils ont travaillé dur pour terminer l'école secondaire.
Les diplômes nous ont été montrés, mais ils ne nous les ont jamais donnés. Nous avons demandé à maintes reprises au directeur de nous donner ces diplômes pour les montrer à nos parents, mais en vain. Tantôt, il nous disait qu'il s'apprêtait à aller les faire signer. Tantôt, il nous disait que les ministères de tutelle ont sans cesse changé de nom, que c'est la raison de la non-remise de nos diplômes. C'est vraiment aberrant que quelqu'un passe plus de 4 ans sans avoir reçu son diplôme dans un pays qui se dit de droit.
Beaucoup d'interrogations subsistent au sujet de cette école, des questions sans réponse.
Il faut qu'ils nous disent la vérité, que ces diplômes sont disponibles ou pas, ou que simplement l'école n'est pas reconnue, pour que nous puissions abandonner parce que c'est incompréhensible que quelqu'un passe 4 ans sans avoir son diplôme.
Nous n'avons pu joindre par téléphone ni le responsable de ce centre, ni le directeur technique pour plus d'éclaircissements.
La radio Inzamba a finalement pu avoir le directeur technique qui a indiqué que le dossier est entre les mains du directeur de l'établissement. Les enseignants vacataires et bénévoles du lycée technique Sassoué se plaignent de n'avoir pas encore reçu leur rémunération pour le 3e trimestre. Cette école se trouve dans la commune Kayokwe de la province Mwaro. Ces mêmes enseignants redoutent le détournement des fonds qui leur étaient destinés par le directeur de cet établissement. Des précisions de Trifine Kaniwabo.
Le lycée technique Sassoué est une école sous convention catholique. La proclamation des résultats des examens de repêchage devait avoir lieu à cette école il y a plus d'une semaine, mais cela n'a pas été fait. La faute au directeur de ce lycée, selon cet enseignant.
À l'origine, sont les frais d'encouragement des enseignants vacataires. Les parents se sont acquittés de leurs contributions, mais les destinataires n'ont jamais reçu leur dû. Dernièrement, il avait promu la remise des frais aux professeurs vacataires qui sont essentiellement des bénévoles. Dès son arrivée, il a dit que l'argent n'était pas disponible. Et ces contributions des parents, on ne fait pas le calcul des heures de prestation des enseignants. Il s'arrange lui-même comment payer les vacataires.
La direction de l'école exige 4000 francs burundais chaque trimestre, des fonds destinés à rémunérer ces enseignants vacataires et bénévoles. Où est donc passé cet argent? Cet enseignant s'interroge.
Normalement, il devrait faire la comptabilité à partir des heures de prestation, c'est 1000 francs burundais par heure de prestation. Toutes ces magouilles qu'il entretient sont à l'origine de ces problèmes et ce sont les élèves qui en subissent les conséquences.
Sollicité pour réagir à ces accusations, le directeur du lycée technique Sassoué a promis de s'exprimer lundi prochain.
Le Burundi vient de ratifier la Convention de libre-échange en Afrique, ZLECAF. C'est un atout pour le pays et pour l'Afrique en général. Déclaration de Faustin Dikoumana qui estime que le Burundi doit impérativement augmenter sa production pour satisfaire la demande locale et d'entrer dans ce marché de concurrence africaine. Je vous propose de l'écouter.
Et normalement, la ratification de cet accord de libre-échange sur le continent africain. D'abord au niveau général, au niveau africain, c'est une étape. Vous savez que le continent africain a toujours été marginalisé au niveau du commerce mondial. Le commerce de l'Afrique avec le reste du monde, je crois qu'il n'arrive même pas à 2%. La place de l'Afrique dans le commerce mondial. Cette approche alors de ce pas d'initier un accord de libre-échange, c'est un pas pour que le commerce entre les pays africains puisse faire des pas de géant. C'est-à-dire qu'il faut que les Burundais fassent le commerce avec d'autres pays africains. Et cela diminuera la tendance des pays africains de vouloir toujours exporter les matières premières. Il faut commencer à faire le commerce entre les pays africains, surtout au niveau des produits manufacturés. Cela pourrait donner des avantages à un pays qui se prépare. Le Burundi, nous avons peut-être une industrie embryonnaire, mais il faudrait alors aller faire tout le paquet pour aller à l'offensif, mais aussi le faire dans des conditions normales acceptées internationalement, parce qu'il faut avoir une politique d'industrialisation, mais aussi vous n'allez pas vous aventurer à fabriquer du n'importe quoi. Il faut aussi les normes, par exemple, les normes de la qualité, avoir une institution qui pouvoir contrôler la qualité de nos produits pour qu'ils soient compétitifs. Voyez, par exemple, le Burundi, nous avons des entreprises vieilles, par exemple, depuis de 30 ans, comme la Sosumo, mais actuellement, on ne voit pas la production de la Sosumo du sucre sur place. Il y a des problèmes internes qu'il faut d'abord régler pour que le Burundi puisse profiter de ce marché qui s'agrandit. Déjà au niveau même de l'East African Community, le Burundi avait multiplié les importations et les exportations. Bon, j'imagine que c'est le grand temps que le Burundi puisse s'organiser afin de profiter au maximum de ce nouveau marché. Les pays africains devraient passer dans ce sens pour voir les économies développées.
Observons une courte pause pour nous retrouver pour la suite de l'actualité burundaise.
Inzamba.
Ce 10 juillet, la radio Inzamba fête 6 ans d'existence. Le directeur de cette station félicite tout le personnel. C'est une fierté malgré les obstacles, selon lui. Alexandre Niyungeko remercie les auditeurs pour leur critique constructive. Suivez Alexandre Niyungeko, directeur de la radio Inzamba.
C'est une fierté pour nous, pour cet anniversaire. Vous parlez effectivement des défis rencontrés. Oui, nous en avons rencontré, pas mal d'ailleurs. Mais heureusement, nous les avons surmontés. Vous le savez très bien que même dernièrement, nous avons dû suspendre nos émissions suite à différentes raisons, que ce soit diplomatiques, que ce soit techniques. Et le plus important, c'est de pouvoir les relever. Je pense que, bien évidemment, il y en aura d'autres, même dans l'avenir. Et ce qui est important, c'est que nous sommes disposés, tout le personnel de la radio Inzamba est disposé à pouvoir travailler main dans la main pour que, effectivement, nous puissions continuer à informer le public. C'est une occasion donc pour nous de pouvoir remercier à tout ce monde, à tout le public qui nous écoute, tout ce public qui nous fait des propositions, des critiques, finalement qui nous édifie. Et donc, j'appelle plutôt tout ce monde-là, que nous sommes là pour les écouter, pour avoir le retour, peu importe lesquels. Nous savons très bien que ces critiques peuvent être constructives. C'est aussi une occasion de remercier tout le personnel, tous les journalistes, les techniciens, tout le personnel en général de la radio Inzamba qui se donne corps et âme pour la réussite de notre mission. Je le souhaite bonne fête.
Alexandre Niyungeko fait savoir que dans les jours à venir, la radio Inzamba augmentera le volume de la production et s'adapter à la sous-région.
À propos des perspectives, nous en avons bien évidemment, c'est que nous puissions continuer à augmenter aussi bien en qualité qu'en quantité ce que nous produisons. Et comme aussi projet, nous avons un projet de pouvoir, comme vous le savez aujourd'hui, nous travaillons dans 2 langues, le kirundi et le français. Donc nous avons en perspective l'introduction des 2 langues parlées dans la sous-région, à savoir le kiswahili et l'anglais, pour qu'effectivement nous puissions couvrir la région dans laquelle nous sommes, la région de l'Afrique de l'Est. Nous espérons bien qu'on va y arriver dans les prochains jours.
Les auditeurs de la radio Inzamba se joignent à la radio Inzamba pour célébrer ses 6 ans d'existence. Ils se disent satisfaits du noble travail des journalistes de cette station qui les informe sur des sujets auxquels les médias œuvrant au Burundi ne peuvent pas avoir accès. Sur le micro de la radio Inzamba, leur souhait est que la radio Inzamba aille de l'avant et continue à informer professionnellement les Burundais et l'opinion.
Je vous dis alors, c'est une bonne occasion pour remercier les dirigeants, les responsables de la radio, mais aussi les journalistes qui travaillent pour la radio et Inzamba. C'est une radio qui donne des informations claires, qui sont bien fouillées, qui ne sont pas partisanes.
Nous remercions encore vivement les représentants de la radio Inzamba Katika Kawe et tout le personnel qui mettent ensemble tous ces efforts pour nous donner des informations fiables dans le pays. Nous vous demandons de rester serré, de rester calme et de rester fort et de continuer avec votre volonté et toute l'efficacité possible pour nous donner des informations très fiables partout pour les Burundis.
Nous remercions grandement la radio qui a informé le Burundi, qui a donné des informations, que ce soit les Burundais qui sont au pays, qui sont à l'extérieur, mais aussi la communauté internationale, parce qu'elle a été informée de ce qui se passait au pays. Donc, les Burundais ont eu la chance d'avoir cette radio qui est née dans des moments difficiles et avec la complexité de la situation qui était en 2015.
Donc, nous encourageons les journalistes de la radio, nous encourageons aussi les amateurs de la radio qui continuent à donner des informations à la radio et la radio continue aussi à informer, à éduquer les Burundis.
La finale de l'Euro 2020 opposera ce dimanche l'Angleterre à l'Italie. Sur son propre terrain et devant son public, l'Angleterre ne rêve que de soulever le trophée. L'Italie pense également à cette coupe pour se consoler après 2 finales ratées. En Coupe América, le Brésil jouera également ce dimanche contre l'Argentine. Un choc entre 2 rivaux historiques du continent sud-américain. Les détails avec Blaise Nijimbeli.
Cette finale qui se jouera devant 65 000 spectateurs est historique pour l'Angleterre. C'est pour la première fois que l'Angleterre joue en finale de l'Euro et qui se joue en plus à la maison. C'est une occasion pour les Anglais de gagner le premier trophée et ce ne sont pas les arguments qui manquent. Dotés d'une attaque efficace composée de Kane, Sterling et Saka, les Anglais ont tous les atouts pour bousculer la défense italienne dirigée par Bonucci. Devant les Italiens finalistes malheureux à 2 reprises, en 2000 et en 2010, et l'Angleterre qui cherche son premier titre, la tâche ne sera pas du tout facile aux Anglais, même s'ils jouent à la maison. L'histoire nous montre d'ailleurs que seuls 3 pays ont remporté la finale chez eux sur 15 euros déjà disputés. Il s'agit de l'Espagne en 64, de l'Italie en 68 et la France en 84. En Copa América, c'est le choc entre le Brésil, pays hôte, et l'Argentine, 2 rivaux historiques sud-américains. Neymar, qui n'a jamais gagné la Copa América, de même que Messi, va s'affronter dimanche à 10h du matin. Pendant ce tournoi, le Brésil, qui n'a pas été trop fort comme d'habitude, contrairement à l'Argentine qui gagne en confiance, surtout grâce à son gardien et son collectif, les chances sont égales dans cette finale. Messi, qui a joué en finale de la Coupe du Monde en 2014, en Copa América en 2007, 2015 et 2016, espère briser cette série noire. Sachez que la dernière Copa América a été gagnée par le Brésil en 2019.
Dans le mini-magazine Au cœur de la société, aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre la famine au Burundi. C'est dans le contexte où le président de la République a déclaré que plus personne n'a faim dans le pays. Émile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Au Burundi, Plus d'un million d'habitants sont actuellement en insécurité alimentaire élevée selon les statistiques fournies par certaines organisations internationales. Le président de la République, lui, estime qu'aucun Burundais n'est menacé par la faim dans le pays. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 10 juillet 2021, nous revenons sur ces chiffres sur la sécurité alimentaire qui concerne le pays classé parmi les plus pauvres du monde. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Il y a environ une semaine, c'était lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a dit qu'aucun Burundais n'était menacé par la faim.
Regardez comment nous sommes donnés corps et âme pour lutter contre la faim. Et voilà qu'aujourd'hui, aucun Burundais ne souffre de la faim. Je vous ai toujours dit que chaque bouche doit avoir de quoi mettre sous la dent et chaque poche son argent. Ceux qui ont cultivé du maïs, vous avez vu comment s'est passée la récolte. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous comparez le maïs à l'argent? Alors, tout cela, c'est notre investissement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous pouvons dire que c'est possible.
Mais certaines organisations internationales ne sont pas du tout de cet avis. Le rapport de l'Integrated Food Security Phase Classification est décrypté par Vanessa Muhiteka.
Entre avril et mai 2021, plus d'un million de personnes au Burundi ont connu des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, classés en crise ou pire en raison des inondations, du déclin économique et de l'effet de la crise. Selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire pour cette période, 106 000 personnes sont classées en situation d'urgence, alors que 1 507 000, soit 13%, sont en phase de crise. Des chocs récents incluent la pénurie d'eau qui a compromis les récoltes de céréales et de légumes. Les inondations ont particulièrement affecté les activités sur le littoral du lac Tanganyika dans un contexte de perturbation des activités transfrontalières suite au renforcement des mesures de prévention contre la pandémie de COVID-19. Avec la prochaine récolte de la grande saison culturelle B, de juin à septembre 2021, la population en situation d'insécurité alimentaire élevée est susceptible de passer de 1 061 000 à 1 004 000 de personnes.
Ce cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire recommande entre autres de fournir une assistance alimentaire directe en nature ou en cash aux populations classées en phase de crise et d'urgence afin d'éviter une probable. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 10 juillet 2021. Merci de nous avoir suivis. Emilio Asumba, j'étais à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Terminons cette édition par la revue de la presse hebdomadaire. Elle vous est présentée par Alice Akiman.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse de ce samedi 10 juillet 2021 à la présentation Alice Akimana. Covid-19, l'aéroport international Melchior Ndadaye, de possibles cas positifs errants, titre le journal Iwachu. Selon cet hebdomadaire d'information, le protocole sanitaire exigeant qu'en ayant 48 heures, le passager doit avoir reçu les résultats de son test de dépistage. Une décision intervenue après la récente mesure de suppression de la quarantaine. Certains disent encore les attendre. Ils craignent que parmi eux, il n'y ait des personnes malades, poursuit Iwachu. Face à cette situation, l'affluence des passagers en provenance de l'étranger à la crescendo, tous les professionnels de la santé sont plus que formels, Iwachu de conclure. Avec le variant Delta, déjà aux portes de la sous-région, les autorités habilitées devraient voir dans quelle mesure redoubler de vigilance. Les mésaventures des migrants économiques burundais en RDC, nous le lisons dans le journal économique Burundi Echo. Dans cet article publié par Jonathan Dikumana, la réouverture de la frontière entre les pays a dévoilé l'existence d'un grand nombre de Burundais qui étaient détenus en RDC. Parmi eux, des migrants économiques, écrit Burundi Echo. Ces Burundais ont été emprisonnés dans les cachots pendant la période qu'a duré la fermeture de la frontière suite à la pandémie de Covid-19. ces Burundais, du moins selon ce journal, auraient été détenus dans de mauvaises conditions. Certains sont sous le point de mourir et méritent une assistance avant qu'ils ne soient remis à leur famille, a révélé la source du journal Burundi Echo, qui dénonce un traitement inhumain, cruel et dégradant. La même source affirme que plus de 200 Burundais qui étaient détenus en RDC avaient déjà été remis au gouvernement burundais jusqu'au 21 juin 2021 avant d'être conduits dans un centre d'accueil en commune de Kiremba de la province de Ngozi. Selon les mêmes sources concordantes, plus de 180 Burundais restaient toujours détenus dans les cachots à Uvira, à quelques kilomètres de la frontière avec le Burundi. Et le coup de gueule de Francine Niyonsaba, le Sénon s'explique, écrit à Keza.net. Et bien sur les réseaux sociaux, la médaille d'argent sur 800 mètres aux Jeux Olympiques de Rio de 2016 s'est fendue d'un message plein d'amertume. Nous sommes à 2 semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Sénon burundais y conduira des athlètes qu'il n'a pas soutenus dans leur préparation. Je ne serai pas surprise de voir plus d'officiels que d'athlètes dans la délégation. En outre, la vice-championne olympique met en garde contre la diminution des participants aux Jeux Olympiques de Tokyo. Si les choses ne changent pas, la situation sera pire aux prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024. Réagissant dans la foulée, selon toujours Akeza.net, Salvatore Bigirimana, secrétaire général du Comité national olympique et chef de la délégation burundaise qui part pour Tokyo, le choix du nombre d'officiels et du ressort du Comité international olympique. Ce journal aligne de conclure que ces athlètes vont représenter le Burundi dans 3 disciplines. Pour l'athlétisme, il y aura Francine Niyonsaba sur 5000 ou 10 000 mètres, Olivier Irabaruta sur le marathon et Eric Nzikukunda sur le 800 mètres. Deux nageurs, Audrey Nakazé et Belly Cressus Ganira, alors Cornela Ravianimana sera sur le ring de boxe. Et voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse. Passez un excellent week-end, à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe pour la production de ce journal. Merci également à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Au revoir.